C'était le 30 octobre 1996. Nous avons eu des menaces. On a appelé la population qui avait fui en brousse, disant comme quoi qu'on va faire la réunion. Et le jour même, on a éliminé les gens à la réunion. On a tué les gens, les jeunes garçons, les femmes, les vieux à Kiringa. Même mon fils, mon premier fils garçon est parmi les victimes.
Vous aviez fui, vous?
J'ai fui. J'étais à l'écart.
Vous étiez présent, vous?
Oui. À ce moment-là, j'avais 12 ans. C'était un certain mercredi, le 30 octobre. On a fait appel à la population comme quoi il y aura une réunion. Pendant la réunion même, on a tué les gens. C'était la nuit, c'était un massacre. C'était avec des petites houes comme ça.
Des houes, de ce qui sert pour faire le jardin, pour travailler la terre.
Oui.
Et comment s'est déroulé le massacre? Qui l'a vu le massacre de vous trois?
Le massacre a eu lieu. Nous avons fui et nous avons des âmes qui ont été perdues là-bas. Et là, disons, la méthode que les messieurs ont utilisée pour massacrer nos frères et nos sœurs, ils ont creusé des trous et puis ils ont massacré les gens. Et les preuves sont tangibles et puis visibles. Ils ont quand même creusé et enterré les gens vivants.
Ce qu'on vous parle, c'est juste, c'est tellement juste. On a trouvé mon fils né est parmi son papa, les grands frères de celui-ci qui étaient de mon côté. On tuait les gens et les mettre dans un trou des Wessins.
Des toilettes. Plus de 50 qu'on avait quand même enterré vivants.
Dans des fosses septiques.
Oui.
Les petits-enfants, les femmes, les vieux, les jeunes. Et à ce moment-là, c'était les militaires Tutsi qui étaient ici, à Rutshagaru et Kilingo. C'était les militaires Tutsi qui ont fait tout ce massacre. Après avoir terminé le massacre de Kilinga, ils sont allés à Mugogo, au marché. On a tiré des coups de cartouches au marché sur les gens.
Ah, c'est-à-dire avec les femmes, les enfants,
tout,
les vieux.
Tout. Tout le monde.
Selon les Nations Unies, 350 civils au moins ont été tués en 1996 à Kiringa. Au moins 350. Mais à en croire un journaliste local qui a fait des enquêtes sur le massacre de 1996, ce chiffre pourrait se monter à 850. La plupart des corps sont toujours là et il y a des fosses communes identifiées et reconnues par l'ONU.
Des miliciens aérois ivres dansant pour narguer l'adversaire.
France 2.
Image du désordre qui règne à Goma, la capitale aéroise du Nord Kivu.
1er novembre 1996.
Toute la journée, des combats ont opposé soldats aérois et rwandais autour de l'aéroport et dans les rues de la ville livrées au pillage. Les tirs à l'arme lourde vendredi soir se sont tus. Goma serait sur le point de tomber aux mains de l'armée rwandaise. Les réfugiés sont de plus en plus nombreux à fuir les combats. Les camps proches de Goma ont dû être évacués. L'Est du Zaïre est aujourd'hui en proie à une guerre qui a commencé en fait début septembre. À l'origine des affrontements, des miliciens hutus rwandais réfugiés dans les camps à la frontière font des incursions dans leur pays. Objectif, déstabiliser le régime de Kigali qui les a chassés depuis le génocide de 1994. La réplique du Rwanda menacée à sa frontière est d'abord indirecte. Il soutient militairement les rebelles Banyamulenge, des Tutsis installés au Zaïre depuis 2 siècles. Uvira est conquise, puis une partie de Bukavu. Mais depuis quelques jours, l'armée rwandaise intervient directement vers Bukavu et Goma. Son but est double, semer la panique dans les camps et désorganiser le Zaïre. L'intervention rwandaise menace de faire imploser le pays au moment où son président malade est soigné en Suisse. Le maréchal Mobutu serait atteint d'un cancer généralisé qui l'empêche de regagner le Zaïre.
Voilà une archive de 1996. On voit là qu'en effet, c'est le moment où le Rwanda, avec à sa tête Paul Kagame, sent que c'est le moment d'essayer de prendre le contrôle de ce gros ventre mou qu'est le Zaïre à l'époque, avec à sa tête cette kleptocratie représentée par le maréchal Mobutu et sa clique, mais avec un pays autour inexistant, sans foi, sans loi, livré à la corruption, à la kleptocratie et à la loi du plus fort. N'importe qui peut venir y faire n'importe quoi, se servir, repartir. Alors pourquoi pas nous, se disent les voisins rwandais, qui eux n'ont aucune ressource, un tout petit pays, trop peuplé et sans aucune ressource, on peut comprendre.